Nous allons incliner nos têtes et nous présenter devant le Seigneur. Glorieux Jésus, c'est une grâce encore ce soir de nous présenter devant ta face. Ce sang précieux qui a coulé à Golgotha est encore là sur l'autel pour nous tous, pour ce monde et pour toute cette méchanceté qui circule et pour tout ce qu'on est en train de passer à travers ces petites tribulations. Seigneur, ton sang est encore sur l'autel. Voilà pourquoi encore tu appelles, tu vas encore nous faire du bien, tu vas encore sauver, tu veux guérir et tu veux bénir. Et ce soir, nous sommes encore là pour avancer avec toi vers ce règne glorieux que tu nous as destiné. Nous voulons le voir bientôt, très bientôt nous allons le voir. Et l'attente est quelque chose de spirituel que nous avons dans nos cœurs, et la foi nécessaire, la foi juste, pour pouvoir croire chacune de tes paroles, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci encore ce soir. Prends en main nos vies, prends en main nos pensées, et guide toi-même toutes choses, forme même nos pensées, afin qu'on soit à ton image et à ta ressemblance. Le temps est là où nous devons rentrer à la maison et être revêtus de Christ, revêtus de ta parole. Nous te remercions et nous t'adorons pour tout ce que tu nous donnes. Merci de nous réunir encore une fois et merci pour tout ce que tu vas faire parmi nous. La gloire, l'honneur et bénis encore les absents, toutes nos familles. Bénis ce jour particulier qui est de fête aussi. Et nous voyons aussi le méchant qui est toujours plus, qui se démène pour nous combattre. Mais que tu puisses donner la conduite et le soutien à tes enfants. Nous t'adorons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Le frère Salvatore manque, peut-être qu'il a oublié. Donc nous allons terminer le dernier paragraphe où le frère Franck parle dans sa lettre circulaire de 1973, janvier 1973. Donc l'extrait de la lettre circulaire de frère Franck de janvier 1973 concernant l'origine de la différence entre les laïcs et les prêtres et les services dans l'Église primitive qui parle de la foi biblique et après création d'assemblée, je pense qu'on l'a lu, mais si vous pensez qu'on n'a pas lu, alors faites-moi un signe. Mais je crois qu'on a déjà lu création d'assemblée, la lettre de 1880. Mais nous allons commencer donc par le paragraphe « La foi biblique » de la lettre circulaire du frère Franck de janvier 1973. L'important n'est pas que nous croyons en quelque chose, mais bien que notre foi soit fondée sur la Bible. N'importe quelle foi ne sauve pas. Seule la foi biblique peut nous sauver. Dans Jean 7, 38, Jésus dit « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, non pas celui qui croit en moi comme il le désire ou comme il le pense. » Mais celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Nous devons donc nous tourner vers la prédication de l'Évangile éternel qui est sorti au commencement de Jérusalem. Dans les siècles qui suivirent, son centre de gravité fut reporté sur Rome. Et dès lors, son fondement ne reposa plus longtemps sur la doctrine des apôtres. On eut subitement l'intercession des saints, le purgatoire et la prière pour le mort. On enleva aux gens la vraie foi et la révélation divine de Jésus-Christ pour les remplacer par la superstition et par le credo humain. De la simple adoration de Dieu qui se pratiquait au début, on fit un culte aux idoles. Je m'arrête un peu ici pour considérer ici ce qu'on vient de lire. ce que le frère Franck ici nous dit, la foi biblique qui doit être fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, comme le dit l'Écriture, cette parole divine, cette parole réelle, vraie, l'unique vraie parole et authentique qui peut produire la foi. D'autres choses, les autres choses. Donc je pense, par exemple, Medjugorje, la Madone de Lourdes, toutes ces choses-là ne produisent pas la foi. Ce qui produit la foi, c'est les promesses faites dans la parole de Dieu. Et ça, ça produit la foi authentique, là où vraiment le Seigneur peut se révéler à nous dans toute clarté. Sinon, autrement, on reste en dehors, c'est-à-dire on reste un religieux. Voilà pourquoi le Seigneur, encore aujourd'hui, nous exhorte avec cette petite exhortation du frère Franck de retourner vraiment à la foi authentique. Ça, on le sait déjà, la vraie foi. Dans 1 Corinthiens 2,5, lisons 1 Corinthiens 2,5. Donc j'avais noté une note personnelle que la vraie foi, c'est une révélation qui vient des promesses bibliques et qui sauve. Sinon, on ne peut pas être sauvé, on n'a pas la vie éternelle. L'unique chose, c'est ça. Autrement, c'est comme si on croyait en vain. Et on croit une chose qui n'arrive pas. Sinon, mais la vraie foi qui s'appuie sur la révélation, sur la promesse que Dieu a faite, donc on peut l'avoir actionnée, comment dire, on va l'avoir parmi nous, même par le salut. Donc on va lire cette parole, qu'on va retrouver même un peu plus loin, 1 Corinthiens 2. Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà la chose, afin que nous puissions être sûrs de ce que nous croyons, de ce que nous avons entendu et que nous croyons. Éphésiens 4, 5, lisons aussi Éphésiens 4, 5. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a une seule foi, la seule foi. C'est comme dit l'Écriture. C'est la foi comme dit l'Écriture. Celle qui peut nous sauver. Nous avons vu qu'il y a même des sorcières, hein, qui peuvent faire bouger les choses. Donc il y a même des manifestations, ils peuvent faire lever un bic pour écrire, mais ça, ce sont des manifestations, mais ça ne sauve pas, ça. Il faut que ce soit comme dit l'Écriture. Voilà pourquoi ça a duré. Et on voit petit à petit comment l'Église est tombée avec ce nicolaïsme, et on connaît tout ce qui s'est passé dans l'histoire. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Maintenant, c'est comme une exhortation. Hein. Voilà, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Attention, les paroles sont bien pesées. Hein. Donc ce qui est écrit, c'est bien écrit, bien calculé. Chaque parole est précise. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés? Mais nous croyons comme disent les Écritures. Comme disent les Écritures. Acte 15 aussi, dans quelques passages, qui nous guident dans cette direction. Acte 15, verset 9. Acte 15, verset 9. Et il n'a fait aucune différence. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Bon, on commence un peu plus haut, au verset 7. Hommes, frères, vous savez vous-même que dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous, afin que par ma bouche les nations. On commence à partir du verset 7. Afin que par ma bouche les nations ouïssent la parole de l'évangile et qu'elles crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit Saint comme à nous-mêmes. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Par la foi authentique, par la foi, la croyance en la vraie parole de Dieu. Et nos cœurs sont et peuvent être et sont purifiés. Ainsi disent les Écritures. Et ils peuvent naître de nouveau. Comment est-ce qu'on est de nouveau? Il faut avoir la foi originale, la foi juste, la foi de Dieu. Et voilà pourquoi il est écrit, celui qui croit, pas comme dit l'autre ou l'autre, ou celui ou tel, mais comme dit l'Écriture. Amen, alléluia. Voilà, on voit ça, on connaît ça. Acte 20, un peu plus loin, acte 20. Au verset 21. On commence par le 20. Je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs, sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute la Bible est basée sur cela. Amen. Elle est construite, édifiée sur cela. Voilà pourquoi on a cette certitude que Dieu a touché nos cœurs et que par la foi, nous avons cru et on a accepté et on est en train de marcher dans cette direction. Amen. Alléluia. Et encore un passage dans Galates 3. C'est le dernier passage maintenant. Galates 3. Au verset 22. C'est toujours là le contexte. Galates 3, 22. Mais l'Écriture a renfermé toutes choses sous le péché, afin que la promesse sur le principe de la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est toujours la foi. La foi, comme dit l'Écriture. Voilà pourquoi des fois on ne voit pas des changements. Des fois, on ne voit pas que des situations changent ou que des vies sont changées, parce que la foi n'est pas basée réellement sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, authentique. Et alors, à cause de ça, mais là c'est clair, la promesse que Dieu a faite afin que nous puissions vraiment croire. Ayant cette promesse, nous pouvons croire la promesse et la foi se met en action. Amen. Donc, on parle d'une foi biblique ici. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. Voilà pourquoi le message du temps de la fin nous a rapporté à la foi authentique des pères apostoliques, basée et fondée uniquement sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. C'est ça la foi biblique. Je continue à lire. Il y a aussi Jacques 2, 17 aussi. Donc je vous le cite, où il est écrit que la foi a des œuvres. La vraie foi de Dieu a des œuvres. Les œuvres qui suivent. Une foi sans les œuvres, elle est nulle, dit Jacques. Donc ce n'est pas une foi juste alors. Parce que la foi est accompagnée par des œuvres. Donc comme il est écrit, celui qui croit sur nos écritures, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Donc je continue les écrits du frère Franck ici. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de différence entre des laïcs et des prêtres. Tous étaient sur le même pied devant Dieu. Il y avait seulement l'ensemble de l'église du Dieu vivant, telle que nous la trouvons décrite dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Chacun servait, faites bien attention. Comme vous voyez comment il faut toujours revenir à cette foi authentique et avoir seulement ça dans votre cœur. Et on va voir encore d'autres passages, d'autres citations. Et voyez que Dieu bénit nos cœurs vraiment profondément en nous donnant un changement total général à l'épouse, afin qu'elle soit prête. Chacun servait avec le don qu'il avait reçu de Dieu pour l'édification de l'ensemble de l'Église. Conformément à Éphésiens 4, 11, Dieu avait placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Ce modèle biblique ne put subsister qu'aussi longtemps que Christ fut la tête du corps de l'Église. Ce modèle biblique ne put subsister qu'aussi longtemps que Christ fut la tête du corps de l'Église, conformément à Colossiens 1, 18. Et aussi Éphésiens aussi 1, 22. Donc, aussi longtemps que Christ reste la tête. Et vous savez ce qui s'est passé avec le temps, toutes les scissions, et encore aujourd'hui, après, donc je dis ça, avant de continuer, après le réveil, quand il y a eu un réveil, il y a une grande bénédiction. Il y a la foi qui s'accroche, qui vient. Mais petit à petit, avec le temps qui passe, et que l'ennemi s'est introduit à travers sa sagesse, à travers son intelligence, à travers son instruction, avec ses capacités intellectuelles de connaissance. Alors le réveil, il s'éloigne, il s'en va. Parce que l'esprit s'en va. Parce que la foi, ce n'est plus celle qui est authentique, libre, qui avait au commencement. Et ça, on le voit tous, on a tous compris et on l'a vu. Moi, j'en ai vu peut-être un peu plus parce que je suis né avant vous. Donc je me suis converti un peu avant vous, mais être très franc aussi, etc. Donc ça, c'est important. Voilà pourquoi il faut revenir vraiment, vraiment, de tout son cœur, l'âme et le corps, à cette foi authentique de nos pères, la foi authentique biblique de nos pères, sans regarder aux capacités, à la force personnelle, à la capacité personnelle, à l'intelligence personnelle, parce que la foi n'a pas toutes ces barrières-là. Et ça, c'est vrai. La foi n'a aucune de ces barrières. La foi ne regarde pas ces choses-là. Elle regarde la promesse, elle croit et elle agit. Alléluia. Amen. Vous voyez ? Je continue à lire. Donc ici, un extrait de la lettre circulaire, 19 de septembre 1979, concernant les différents services et concernant les membres du corps de Jésus-Christ, l'Assemblée internationale mondiale. Ceux qui ont été établis par les hommes peuvent être écartés par eux. comme ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc il y avait un appel où il y a des frères qui ont été établis par des hommes. Bien sûr, ces hommes peuvent être placés, peuvent être écartés, mais ceux qui ont été établis par Dieu ne peuvent pas être écartés par des hommes. Même s'il y a des hommes qui parlent mal ou qui mettent de la boue sur les gens, qui parlent mal des gens pour discréditer la personne, comme il y en a qui le font et qui continuent à le faire, néanmoins, ils ne peuvent pas ôter ce que Dieu a fait dès la fondation du monde. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur dans l'Écriture. C'est comme ça. Parce que chez les pentecôtistes, par exemple, « Oh, tu as fait ça, tu as fait ça, tu ne peux plus prêcher, David ne pouvait plus être roi, parce qu'il n'avait plus la capacité de gérer son royaume, parce qu'il avait fait un adultère, un homicide, etc. » Donc il y a beaucoup de choses qui empêchent ces gens-là de croire comme les Écritures. Et c'est... Donc ce n'est que lorsque... Ça, c'est important. Ce n'est que lorsque notre cœur est rempli de l'amour pour notre Sauveur que nous pouvons intercéder de la bonne manière les uns pour les autres. Les vrais enfants de Dieu ont part à la nature divine. Et c'est ainsi qu'ils se tiennent au service de la divine sainteté de l'Église. Il faut... Quand il y a ce vrai amour, c'est quand il y a ce vrai amour qu'on peut intercéder les uns vers les autres. Avec discernement, avec la capacité de solutionner les problèmes. C'est-à-dire pour l'édification et pas pour la destruction, pour l'édification surtout. Alors on voit qu'on est déjà en mouvement pour servir Dieu. Et c'est ainsi qu'ils se tiennent au service de la divine sainteté de l'Église. Il faut arriver à une pleine harmonisation de l'Église avec le Seigneur. Donc là, la bienveillance, etc., afin que le signe et le miracle puissent se produire encore maintenant, en quel que soit le moment, parce qu'il n'y aura pas de lutte, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'opposition, mais il y a l'harmonie divine, là où chacun est à sa place, avec ce que Dieu lui a donné de la simplicité. Il met en action ce que Dieu lui a donné. Et le ciel bouge là, dans ce sens-là. Et le ciel va se bouger, les choses se produisent au sein de l'Église, qui sera édifiée alors, grâce au Seigneur. Il ne peut, donc Dieu ne peut, le Seigneur ne peut accomplir aucun ministère, aucun service, tout seul, car étant la tête du corps, il a besoin de ses membres. C'est normal ou pas? N'est-ce pas? Il est la tête, nous sommes le corps de Christ, donc, voilà. Donc nous tous, ayant de la connaissance, ayant, comment on peut dire, la capacité de percevoir les choses, de voir les choses juste de la bonne manière, on peut vraiment servir de la bonne direction. Parce que c'est lui qui en a besoin. C'est, bien sûr, c'est pas qu'il a besoin de nous, mais dans le sens de quoi? Parce que nous, on parle. Sinon, c'est lui seul qui aurait parlé, il n'aurait pas besoin de venir sauver le monde. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà, vous pouvez comprendre ça. Donc, il a besoin de ses membres, il a besoin du corps. L'ensemble du ministère de notre Sauveur doit se poursuivre au travers de l'Église. Nous devons comprendre pleinement quel est le mystère de Christ et de son Église. Il y a eu une brochure que le frère Franck a écrite, Le mystère de Christ dans son Église. Vous l'avez lu? Merveilleux. Il y a beaucoup d'années, je ne sais plus quelle année, mais il l'a écrite. Et dans l'Église, il y a un mouvement. Et parfois, il y a des mouvements étranges, mais il y a le vrai mouvement de l'Église qui va vers l'édification, qui apporte la foi authentique et qui mène au changement des cœurs et qui fait même naître des ministères, qui fait naître les dons, qui fait sortir ces choses. Le Seigneur produit un plein accord avec lui, avec sa parole. Avec sa parole, avec son action parmi tous les membres de son corps. Et il prend la première place. Ça, on le trouve dans Éphésiens 4. On peut le lire hein, dans Éphésiens 4, 16. Vous connaissez tous ce passage d'Éphésiens 4, 16. Éphésiens 4, 16. Duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure de fournissement, produit selon l'opération de chaque partie, dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Amen. Colossiens aussi 2, 19 aussi. C'est aussi la même chose. Voilà l'accroissement. Unis ensemble. Tous les membres, unis ensemble. Quand ils vont tous dans la même direction. Ils ne vont pas dans des directions opposées ou diverses. Non, ils vont dans le même sens. Alors là, on a quelque chose de puissant. Alléluia. Je continue à lire. Donc ça, c'est l'extrait de la lettre circulaire 20. De janvier 1980 sur l'obligation pour les anciens, donc en grec presbyteros, et les évêques, en grec épiscopos, surveillants, d'être mariés. Donc là, il met un accent particulier sur ses serviteurs. Donc, l'ancien, c'est le surveillant. On est toujours là. Vous voyez, l'ancien, c'est une personne qui est âgée, ancienne, expérimentée. Mais ce ne sont pas des personnes diverses coupées. C'est une personne qui fait la surveillance. Donc, lui doit être marié. Donc, ça, c'est... On parle toujours de la foi biblique, hein, restaurée dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a aussi une directive donnée à tous ceux en général qui éprouvent la nécessité de se marier. Toutefois, pour éviter l'impudicité, donc c'est le verset biblique, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, 1 Corinthiens 7, 2. Dieu a pensé à tout, et il a aussi pourvu aux besoins terrestres, humains. Il y a des personnes qui sont destinées au mariage, faites attention à cela, ce sont des paroles très précises, il y a des personnes qui sont destinées au mariage, et d'autres qui ne le sont pas. Les dispositions naturelles sont différentes. Je voudrais, une citation biblique ici, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. 1 Corinthiens 7, 7. Qu'il soit question en rapport avec cela d'un don particulier reçu de Dieu, peut nous sembler singulier, étrange. Mais cela nous contraint à réfléchir. Ça, c'est une question là. Il n'est pas donc un don particulier. Là, ça nous oblige à réfléchir ici. On continue. Il n'est pas question ici d'un don de l'esprit, mais d'un don naturel que Dieu, notre Créateur, peut avoir placé en l'un ou l'autre. C'est-à-dire d'un don particulier. L'un là, l'autre n'a pas. Nous devons aussi savoir cela pour respecter la parole de Dieu. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Amen. Pas de problème. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Matthieu 19, versets 11 et 12. Un sujet particulier ici, que l'ancien doit obligatoirement être et marié. On ne parle pas de dons des cinq ministères, comme on dit, que Dieu a établi dans Éphésiens 4, mais on parle de la personne ancienne doit être ancienne. Par exemple, Paul n'était pas marié. Timothée, apparemment, n'était pas marié non plus. Tite, vous voyez, mais un ancien doit être mari d'une seule femme, il doit être marié. Déjà dans la vie, je continue à lire, déjà dans la vie, donc on peut déjà voir ici, on peut voir David par exemple, il avait un don d'être marié, Salomon, Élie, par exemple, on ne parle pas de femme, Jean-Baptiste, non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chacun a reçu des dons naturels que Dieu, dans sa création, dans la vie, je ne sais pas comment dire, il a permis ça, il a autorisé ces choses. Moi j'ai le don de me marier, voilà. Vous aussi, voilà. Vous voyez? Mais il y en a, peut-être pas. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Mais concernant un ancien, il faut être marié. Déjà, dans la vie des plus grands hommes de Dieu, nous pouvons voir la différence dans la conduite de leur vie. Chacun avait reçu, dans les choses naturelles, un don de Dieu. Et il avait aussi reçu de lui son ministère spirituel. Donc on voit David, on voit Élie, on voit Jérémie, on voit beaucoup de choses. On voit les apôtres, Moïse, etc., etc., etc. Donc on voit des personnages variés de la Bible et encore maintenant ceux qui sont vivants encore parmi nous. Il y a des prescriptions que nous devons prendre en considération. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, etc. Donc le frère Franck, encore une fois, revient à cette chose qui est établie. Ceci est écrit dans 1 Timothée 3, 2. En aucun cas, nous ne devons sauter cet important passage biblique. Un ancien d'église doit être marié et ne pas être nouveau dans la foi. Il faut qu'il puisse aider, avec le secours de Dieu, ceux qui ont des problèmes de famille ou entre conjoints. Amen. Ça, on a tous compris, on l'a réalisé et on le sait. Ça, c'est la doctrine que nous connaissons déjà. Voilà où est l'accent sur la foi biblique et sur ce petit paragraphe que nous avons lu. Donc je crois qu'on a terminé ce sujet, cette petite brochure, une compilation sur les anciens, les pasteurs, le ministère, etc. Parce que je crois que la création d'une assemblée, là, on l'a déjà. On a déjà lu ça, ce passage, la création d'assemblée du frère Franck. Voilà. Le frère dit qu'on a lu ça le 16 septembre 2020. Voilà, ça a déjà été fait. Que Dieu bénisse nos cœurs, qu'il nous donne la force de réaliser toujours plus ces enseignements qui demeurent toujours pour l'éternité scripturelle, authentique, basée sur la parole de Dieu et qui font avancer notre vie. Maintenant, on a encore un peu de temps. Est-ce qu'on peut lire encore un peu? Quelques pages, ça va? Nous voulons commencer autre chose. Et c'est une chose très difficile, parce que les temps dans lesquels nous vivons sont aussi difficiles. Il y a eu 58 ans, si je compte bien, 58 ans que le frère Branham est décédé. Non, 50, excusez-moi. 55 ans. Excusez-moi, 55 ans que. C'est en 65 qu'il est décédé, donc ça fait 55 ans. Ce que je veux dire. Bon, moi, les dates. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant toutes ces années, depuis que lui a prêché, par exemple, sur mariage et divorce et d'autres prédications Il y a eu beaucoup d'années qui sont passées. Et encore, plus ou moins 70 ans. Et encore maintenant, on voit qu'il y a encore de la confusion. Néanmoins, il y a beaucoup d'années, je veux dire. Mais encore maintenant, il y a des sujets qui sont encore sensibles parce que ça va toucher quelque chose de plus profond. Mais voilà, je crois que c'est nécessaire, malgré tout, de lire cela. Et on va en retirer vraiment des bénédictions, pas seulement de la connaissance de Jésus-Christ, ou bien dans les anciens temps, mais aussi dans notre temps, maintenant, dans la communion avec le Seigneur. Ça, c'est important. C'est ce que je dis, je le crois de tout mon cœur. Parce qu'une fois qu'on est entré pleinement dans la révélation du plan de Dieu, dans ce que lui a fait pour l'humanité, alors là, on peut vraiment le remercier de tout notre cœur, l'adorer de tout notre cœur, de nous avoir inclus dans ce plan et d'avoir réalisé ce qu'il a fait pour nous tous. Vous voyez? Ça, c'est important. Maintenant, bien sûr, il pourrait y avoir des choses qui vont toucher certains points de nos vies privées, c'est ça que je veux dire. Mais que Dieu nous aide tous et surtout à mettre en avant et continuellement la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Ça, je voulais vous le dire clairement, de façon qu'on puisse avancer tranquillement. Voilà, vous comprenez? Alors, je crois que vous avez compris. Voilà. Gloire à Dieu. Parce que nous allons entrer dans une profondeur. Je dis merveilleux, une profondeur merveilleuse. Et beaucoup de choses vont être remises à leur place, certaines choses qui ne sont pas à leur place, ou bien parce qu'on n'a pas bien compris la révélation de Dieu, ou le plan de Dieu. Voilà, mais on va commencer. Vous avez donc ces extraits de lettres circulaires de Frère Franck sur le thème du mariage, remariage, divorce, position de l'homme, de la femme, etc. Et si vous l'avez, nous allons commencer, donc. Vous avez cette brochure en italien, enfin cette compilation en italien. Voilà, frère Antonio Santo, vous l'avez. Voilà, on peut commencer tranquillement. Voilà. Voilà, il y a le frère qui peut mettre les écrits du frère Franck en direct projeté sur l'écran. Alors comme ça, vous pouvez facilement suivre. Que Dieu nous accorde sa présence et sa grâce. Donc, on commence par lire la 8e suite en français de septembre-octobre 1967. Adam connut Ève deux fois. Adam connut Ève deux fois. Bien que dans cette période, trois enfants vinrent au monde. Cette première union fut troublée par l'adultère, introduit par le diable qui, dès lors, cherche à infiltrer ce péché dans toutes les unions. Il n'y a aux yeux de Dieu pas de plus grand péché que ceux de l'adultère et de la prostitution. Faites attention, c'est une chose grave et importante. Donc je commence à lire, je continue à lire. Donc il est nécessaire d'approfondir avec des versets bibliques. Donc il n'y a aux yeux de Dieu pas de plus grand péché que ceux de l'adultère et de la prostitution. C'est ce qui nous fait comprendre pourquoi Dieu désire juger les impudiques. Faites attention. Il y a certaines erreurs en italien parce que c'est traduit par un ordinateur, c'est traduit automatiquement par un programme informatique. Donc vous changez vous-même, vous comprenez vous-même qu'il y a des erreurs grammaticales. Mais ce n'est pas un problème. Donc je continue, c'est ce qui nous fait comprendre pourquoi Dieu désire juger les impudiques et les adultères lui-même. Hébreux 14, 4. Verset 13, 4. Même bien que Paul déclare que les saints jugeront le monde. 1 Corinthiens 6, 2. Ce sont ces péchés qui ont occasionné le plus de malheurs et de brisements de cœur dans l'humanité. Le diable ne se gêne pas de précipiter également des hommes de Dieu dans ce péché. Que le Seigneur nous fasse donc la grâce de ne pas prendre ces choses à la légère. Aujourd'hui encore, l'ennemi dit « Vous ne mourrez point ». C'est vrai. Mais nous savons que l'Écriture dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». 1 Jean 3, 9. Que la révélation donnée à frère Branham puisse produire en nous ce seul désir. Et je le souligne. Voir tout péché tel que Dieu le voit et ressentir une profonde horreur à son contact. Ainsi nous serons conduits vers une pleine et profonde sanctification et cette révélation aura porté ses fruits. Alléluia. Vous voyez? Ce sont des paroles qui sont claires et profondes. Un cœur qui veut marcher, que ce soit un homme ou une femme, qui veut marcher selon la parole de Dieu, aujourd'hui, je crois qu'on aura beaucoup de clarté, beaucoup de lumière. Parce que, quand il est écrit ici, moi je reprends un peu, avant de continuer, je reprends un peu, parce que c'est nécessaire de prendre des passages de l'Écriture, quand il est écrit ici qu'il n'y a pas, aux yeux de Dieu, de plus grand péché que ceux de l'adultère et de la prostitution. Si on va dans les Nombres 25, juste pour entrer un peu dans le sujet, Nombres 25, Nombres 25, et Israël habitait en Sittim, et le peuple commença à commettre fornication. Un esprit infidèle qui est venu. Donc, commettre fornication avec les filles de Moab, et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Baal Péor. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Vous savez que c'est un péché que, d'un certain sens, Dieu n'a pas pardonné. Voilà pourquoi c'est lui-même qui jugera, comme il est écrit ici dans Hébreux 13. Frère Franck nous le fait voir, que le lit conjugal, c'est une chose que Dieu... C'est une chose de sacré. Sacré, sacré. Donc, on peut le lire. On va le lire. Donc, ce soir, on met fondement. Et ensuite, Dieu guidera toutes choses ensuite. Dans Hébreux, prenez Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera le fornicateur et les adultères. Donc là, on parle du lit. Là où il y a un contact, où deux deviennent un, etc. Peut-être remarque, en français, ils avaient mis Hébreu 14, mais c'est Hébreu 13. Voilà pourquoi. C'est pas seulement acte physique, mais c'était aussi spirituel, là, dans l'ombre. Donc c'était une chose qui faisait fâcher le Seigneur plus que toute autre chose. Parce que c'est quoi? C'est quoi qui s'est passé dans la Genèse? On va y retourner petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse? Il se passait toujours la même chose. Et encore, spirituellement, ils sont allés, ils ont adoré, ils ont mangé, ils ont été derrière ce Dieu-là. Ils se sont attachés à Baal, Péor. Et la colère de l'Éternel s'est donc embrasée. Donc c'était une chose grave. Donc, faites attention à cela. Donc, j'ai déjà dit que chaque chose qui se fait, il y a un prix à payer. Il y a toujours, toujours. Et ça, je veux le confirmer ici avec les Écritures. Regardez ici dans Proverbe. Regardez dans Proverbe. C'est le Proverbe 3, pardon, Proverbe 6. Proverbe 6. Il y a toujours un prix à payer. Voilà pourquoi il faut être avisé, consacré. Voilà. Chapitre Proverbe 6 verset 32. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme. Il trouvera plaie et mépris et son opprobre ne sera pas effacé. Voilà, c'est une tâche. Une chose qui reste. C'est une chose qui est là et qui met un déséquilibre, disons. Mais Dieu est une personne qui pardonne beaucoup. Mais il y a le prix à payer et on paye. Et on connaît des situations. Voilà pourquoi je dis qu'il y a toujours un prix à payer. Que Dieu nous aide et nous fasse grâce. Et lisons aussi dans Nombre 31, verset 16. Nombre 31, 16. Et lisons à partir du 13. Et Moïse et Éléazar, le sacrificateur, et tous les princes de l'assemblée sortirent à leur rencontre, hors du camp. Et Moïse se mit en colère contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient du service de la guerre. Et Moïse leur dit : Avez-vous laissé en vie toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, à la parole de Balaam, ont donné occasion aux fils d'Israël de commettre une infidélité contre l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et il y eut une plaie sur l'assemblée de l'Éternel. Et maintenant, tuez tous les mâles parmi les enfants et tuez toute femme qu'a connu un homme en couchant avec lui. Et vous laisserez en vie pour vous tous les enfants, les jeunes filles qui n'ont pas eu compagnie d'hommes. Et vous demeurez hors du camp. Etc. Ensuite, il y avait la partie de la purification qui devait venir. Vous voyez ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que Dieu déteste? Est-ce que vous vous êtes posé la question? J'aurais voulu vous avoir devant moi. Donc, vous pouvez apparaître et je vous pose la question, pourquoi est-ce que Dieu est autant l'adultère et la fornication et l'adultère. Pourquoi? Ouvrez vos micros et je veux vous entendre. Ça vous fait penser à quoi? Un frère dit, on rompt le pacte entre nous et Dieu. Et encore plus grave de cela, un autre frère dit, c'est ce que Dieu a établi à la Genèse qui est brisé. Mais encore plus grave que cela. Un frère qui dit, tu ne fais pas attention à celui qui devait être ta moitié. Toi envers la femme envers toi. Tu vas chercher une semence étrangère. Ah, voilà. Le frère Franco dit, voilà, c'est ça. Tu as bien mis le doigt dessus. parce que Dieu ne veut pas l'hybridation. Dieu n'a jamais voulu l'hybridation. Je peux vous dire, ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu. Et je prends toute la responsabilité de ce que je dis. Vous y êtes, vous comprenez? Voilà pourquoi l'adultère, la fornication, devant Dieu, c'est grave. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ce qui s'est passé là, c'était ça. Vous voyez? Voilà pourquoi toute l'humanité entière, complètement, est tombée dans le péché, dans la désobéissance et dans la gravité de la chose. Donc on peut voir ce qui s'est passé réellement, la clé. Mais on va en parler, on va en parler un peu plus tard. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le sujet public, mais je dis simplement cela. La clé profonde, le mot clé, disons, c'est l'hybridation. Si vous pouvez un peu penser à ça. Alors, bon, le croyant peut comprendre, ça peut rentrer dans la profondeur de ces choses. Mais je dis ça. Dans un vase, l'homme peut... Ça, c'est dans mariage-divorce, c'est expliqué. L'homme peut avoir beaucoup de vases. Mais c'est le même homme. Mais on va rentrer plus tard dans ces choses-là, dans l'hybridation, etc. On va parler plus tard de cela. Mais voilà pourquoi Dieu n'a pas permis ou ne veut pas ça, n'aime pas ces choses-là. Amen. Ça, c'est une chose importante. Et une autre chose encore aussi, très importante, parce que sa procréation, qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse? Lisons un peu dans la Genèse. Genèse chapitre 3, au verset 4. Voilà, là où il est écrit, tu ne vas pas mourir. Donc Genèse 3, verset 4. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous verrez, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Donc là, il dit, « Vous ne mourrez point certainement. » C'est comme aujourd'hui encore. Il y a ce petit murmure, on peut dire, un petit, hein, qui vient à l'oreille, « Mais non, tu ne vas pas mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir, tu peux faire ce que tu veux. » Tu vas pas mourir. Mais il ne se rend pas compte qu'ils se sont éloignés de Dieu et de la vie éternelle. Dans certains sens. Ils se sont éloignés de la vie éternelle. Alors on continue la lecture ici. Excusez-moi. Je voulais dire Genèse 1. Ça, c'est une base. Si je m'arrête, c'est parce qu'il y a une base à poser. Et ensuite, on continue. Genèse 1, chapitre 1er, au verset 27. « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, et le créa mâle et femelle. » Au verset 26. « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa, attention, Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Attention à ce qui a eu lieu lors de la procréation. « Il les créa mâle et femelle, et Dieu les dit... Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre, la sujettissez. Il a prononcé la parole de la promesse. Il a prononcé la parole avec la promesse. Fructifiez et multipliez, et remplissez la terre. Ça, c'était la parole exactement quand le Seigneur Elohim s'est présenté devant Abraham aussi et qui a dit, Sarah, tu vas, dans un an, tu vas avoir un enfant, un fils. Il a prononcé la parole, il a fait la promesse. C'est vrai. Maintenant, tout devait venir à travers la parole promise. Alléluia. Vous êtes d'accord? Faites-moi voir, dites Amen. Amen. La parole a été prononcée sur la promesse. Comment dire? La vie est venue, même si elle est venue à travers, disons comme ça, les relations sexuelles, mais la vie est quand même venue. Et voilà pourquoi la démonstration, Luc 2 de Marie, c'est une démonstration nette et claire. Pas seulement la promesse de Ésaïe, chapitre 7, une vierge enfantera, mais aussi l'accomplissement de la promesse, qui n'est plus venue à travers l'œuvre humaine, mais elle est venue à travers l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est glorieux. Glorieux. C'est comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a encore beaucoup de passages d'Écriture avant de terminer. Aujourd'hui, voilà ce que Dieu nous a offert à travers la parole de l'heure, à travers le message du temps de la fin, à travers la restauration. Retournez et prononcez la parole promise. La promesse et la parole, par la puissance du Saint-Esprit. Mais tant que l'Église n'aura pas accompli, fait tout le nécessaire, à travers la sanctification, à travers la purification, voilà. Mais là, cette chose-là est présente maintenant. C'est ce qui doit se passer à travers la parole de Dieu prononcée. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il y ait ces choses. J'ajoute encore cela. Dieu a permis que ces choses arrivent dans la Genèse, là. Où il y a eu cette séduction, là. Dieu a permis cela. Afin que toi et moi, aujourd'hui, on puisse avoir la révélation de son plan du salut envers chacun de nous, envers l'humanité entière, et envers l'Église, surtout l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on comprend ça maintenant. En toute connaissance de cause, avec le cœur ouvert, avec la foi dans le cœur, on va dans la juste direction pour nous soumettre à l'autorité de la parole et demeurer sous son onction et son autorité. Amen. Amen. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas bien comprises, qui ne sont pas bien captées, parce que voilà, il y a la femme, la future femme de Jésus-Christ. Donc ce parallèle entre une femme physique et l'épouse de Jésus-Christ, on va voir petit à petit le parallèle entre les deux. Il y a encore un autre passage dans Matthieu 19, 8. Au commencement. Si on va encore prononcer cette expression « au commencement ». Ce n'était pas comme ça. Au commencement, il n'était pas ainsi. Ça, vous pouvez le lire dans Matthieu 19, 8. On parlait de la lettre de divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Et on parle du plan de Dieu et on revient au commencement. À Corinthiens, lisons 2, 14. Donc des passages clés. 1 Corinthiens, Corinthiens 2, 14. Regardez comment ces passages sont bien incorporés. 1 Corinthiens 2, 14. Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Pourquoi ? Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il instruise? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Et un peu plus loin, il est écrit que personne ne peut accuser Dieu d'avoir fait une chose. Personne ne peut accuser Dieu d'avoir élaboré son plan. Toujours dans 1 Corinthiens 2 aussi, 7 et 8. Mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Amen. Même les choses profondes de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais accepté cette partie de la Genèse, cet événement de la Genèse. Même s'il avait déjà préparé l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde pour nos péchés. Voilà pourquoi il a tué deux agneaux et qu'il a couvert d'oïèves de peau afin que leur nudité ne soit pas vue. Mais ils ont été jetés dehors, hors du jardin d'Éden. Donc on voit comment vraiment, vraiment le Seigneur continue encore son œuvre en donnant encore aujourd'hui des instructions justes, saintes, précises. Donc pour le moment, on va s'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais c'est déjà ça. On va déjà dire cela. Parce qu'en réalité, mais continuons, on va continuer un peu. Dans la lecture plutôt. Donc on est arrivé. Donc voilà. Ainsi nous serons conduits vers une pleine et profonde sanctification et cette révélation aura porté des fruits. Quand on parle de séduction, nous ne savons que trop bien de quoi il s'agit. Car aujourd'hui encore, si l'on nous dit que la fiancée d'un jeune homme a été séduite et trompée, nous saisissons tout le tragique de la situation. Il ne peut donc être question d'avoir mangé une pomme. D'ailleurs, on sait très bien. Donc, il ne peut donc être question d'avoir mangé une pomme. D'ailleurs, la Bible ne parle pas de pomme en rapport avec cela. Posez-vous la question, je vous prie. Pourquoi Adam et Ève, sitôt après leur acte, se firent-ils une ceinture de feuilles de figuier pour cacher la honte de leur nudité? Pourquoi ne se couvrirent-ils pas la bouche ou le visage? Mais bien la partie du corps par laquelle ils avaient péché. Comment cela se fait-il que Dieu ait dit à Ève, sitôt après cet acte, « Tu enfanteras avec douleur jusqu'à ce jour. Aucun enfant n'est né d'une autre manière que par procréation. Quiconque a le cœur ouvert, sans idée préconçue, a déjà compris la signification de cette parole du Seigneur. » S'il s'était s'agi de manger un fruit naturel, la malédiction aurait dû reposer sur la bouche. Mais c'est en mangeant que les hommes éprouveraient des douleurs. Pourtant, jusqu'à ce jour, la parole de Dieu demeure valable et les enfants naissent dans les douleurs. Dieu savait exactement où la malédiction devait être placée. Qui donc voudrait lui reprocher de ne pas avoir agi avec justice ? Avons-nous déjà médité sur la raison qui poussa Paul à traiter les femmes avec sévérité lorsqu'il dit dans 1 Timothée 2, 14 « Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Et pourquoi Paul, dit-il au verset suivant, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi » dans la charité et dans la sainteté. Encore une fois, on parle de la procréation après le péché. Donc, c'est moi qui dis ça. La procréation est arrivée après le péché. Dans la conversion, dans la soumission à la parole de Dieu, elle sera néanmoins, dans cette conversion, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, un acte. Il y a eu un acte. Attention. Il y a eu, je dis quelque chose moi, quelque chose d'important. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Faites bien attention. Parce que c'est ici qu'il y a eu un grand problème. Vous voyez ? Acte accompli. Désobéissance et sans amour. Qu'est-ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden ? L'amour, c'est Adam qui l'a manifesté en prenant Ève. Malgré la chose qui a été faite, le péché que Ève avait commis, malgré l'adultère qui a été faite, la chose qui a été faite, Adam a quand même pris Ève. Et vous savez très bien que c'était juste. On a déjà la révélation sur le mariage-divorce, frère Branham en a parlé. Sinon, ce serait tous que des caïnites qui seraient nés. Au contraire, non. Dieu voulait sa progéniture, sa semence. Voilà où est la chose. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, les deux semences, on les aura jusqu'à la fin, même dans l'Apocalypse. C'est pas comme quelqu'un qui a dit qu'après Noé, donc, qu'ils disent qu'après Noé, le péché, la semence était partie et que le diable était parti, qu'il n'était plus là. Non, ça c'est complètement faux. Parce que s'il n'y avait plus, il n'y aurait plus de viol, ni d'adultère, ni de mort, ni d'assassinat. On devrait vivre dans une grande paix. Mais s'il y a encore ces choses-là, ça veut dire que cette semence-là est encore là. N'est-ce pas ? Amen. Donc c'est important de comprendre. Donc, je voudrais encore dire quelque chose. Je ne sais pas si je peux. Parce que un acte de désobéissance sans amour, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Le désir est venu après. Mais au commencement, il n'y avait pas de désir. Faites attention à cela. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Au commencement, ce n'était pas un désir. C'était comme quelqu'un de forcé. C'est comme quelqu'un qui est forcé. Il n'y avait pas d'amour dedans. Vous comprenez ? Je m'arrête un peu, pour vous laisser digérer la chose. Il n'y avait pas d'amour dedans. Après, peut-être est venu du désir. Donc, on continue à lire. Donc, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà, donc, retour de la partie spirituelle qui redresse, qui remet en place la situation. Donc c'est la chose spirituelle qu'il faut faire. Voilà pourquoi on peut s'appeler épouse de Jésus-Christ. Mais Dieu a fait une œuvre glorieuse, quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, il pouvait même la faire redevenir vierge. Son église, son épouse. Alléluia. Ça, c'est important. Donc, on peut même dire, ainsi dit le Seigneur. Autrement, ici, nous, aujourd'hui, on ne serait même pas ici. On serait loin de cela. Mais Dieu a fait en sorte que, à travers Luc 2, chapitre 2, ce que aujourd'hui, le monde fête, aujourd'hui, c'est-à-dire Noël, Dieu a permis qu'il y ait une naissance et qu'il y ait un rafraîchissement pour revenir, donc une restauration, pour revenir totalement à la parole originale, la parole prononcée au début, au commencement. On continue à lire. Celui qui lit ces deux versets en vient à la conviction que Paul savait aussi en quoi consistait la séduction d'Ève, car il traite de cette affaire en paroles claires et pénétrantes. Puisque nous sommes arrivés jusqu'à Paul, ce grand homme de Dieu, nous voulons examiner s'il a autre chose à dire sur ce thème. Il écrit dans 1 Corinthiens 4, 1. Donc c'est pour montrer qu'il est un serviteur de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. S'il s'agit donc d'un mystère, il sera révélé en temps utile pour être transmis à d'autres dans la fidélité. Pourquoi Paul écrit-il dans 2 Corinthiens 11, 2 et 3 ? Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul mari, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, on voit que Paul avait la révélation de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi il a parlé de, dans ce sens, du fiancé. Voilà où est la jalousie de Dieu. Voilà où on parle d'une certaine jalousie de Dieu. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul homme, un seul mari, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul se voit comme le solliciteur de la fiancée, et il veut présenter la mariée à l'époux comme une vierge pure. Et c'est précisément à ce propos que la chute du jardin d'Éden est relatée et que Paul nous entretient de la séduction d'Ève par le serpent. Il parle d'une vierge pure. Il parle d'une vierge pure. Je l'ai souligné. Donc c'est entre guillemets ici. Puis il exprime la pensée que précisément une vierge n'est plus une vierge pure. Il se base sur ce qui est arrivé réellement à Ève. Pourquoi donc Paul apporte-t-il l'exemple d'Ève et du serpent en rapport avec cela? Paul apporte cet exemple. Pourquoi donc Paul apporte-t-il l'exemple d'Ève et du serpent en rapport avec cela? Le signe d'une vierge est qu'elle n'a pas été touchée. Et l'exemple ici, cité ici par l'apôtre, ne peut avoir qu'un seul sens, si toutefois nous voulons bien le comprendre, et nous le comprenons, gloire à Dieu. Ce passage confirme l'exposé de ce fait, qui a été révélé par Dieu à notre bien-aimé frère Branham. Alléluia. Même l'Église catholique sait ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas le manifester. Sinon, le pauvre François serait resté tout seul. Paul, je continue. Paul craignait que, comme le serpent le fit avec Ève, avant qu'Adam l'ait connue, l'Église ne soit séduite par le diable avant qu'elle rencontre son époux. Et ça, c'est déjà passé. C'est déjà passé, ça s'est déjà produit. Déjà à la Pentecôte. Vers cette époque-là, déjà tout cela est arrivé. Vous pouvez imaginer comment le serpent ancien a encore séduit la femme, c'est-à-dire l'Église, a encore séduit et a apporté, disons, son règne, sa manière de procéder, sa manière de faire. Voilà ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, on voit ces choses-là. Ève avait eu un premier rapport avec le serpent, et puis elle en eut un avec Adam. Que le Seigneur accorde à chacun de le reconnaître en se fondant sur les passages bibliques. Que celui qui peut le saisir, le saisisse. En Marie, cette parole des prophètes s'est accomplie. Voilà. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. C'est écrit dans Ésaïe 7, 14. C'est pour cela que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Dans Apocalypse 3, 14. Donc on peut lire rapidement un verset. Mais l'homme spirituel, donc excusez-moi, je disais, on a été coupé. Corinthiens, on a été coupé. 1 Corinthiens. Si nous, on ne pénètre pas parfaitement, je le dis au nom du Seigneur, Jésus-Christ, si on ne pénètre pas dans l'Esprit de Dieu, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 2, qu'on a l'Esprit de Christ, si on ne rentre pas dedans parfaitement, alors les choses vont nous échapper. Et si ça ne reste pas, faites attention, si ça ne reste pas, on va toujours aller en arrière. Mais si cette parole reste, on peut progresser, aller de valeur en valeur, de révélation en révélation, de foi en foi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu désire. Alléluia. Donc, on continue la lecture du frère Franck ici. C'est pour cela que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, Apocalypse 3.14. Oui, il est le premier-né entre plusieurs frères, Romains 8.29. Et nous pourrions continuer à puiser dans ce thème, mais nous n'en avons pas la possibilité ici, vu le manque de place. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ parle à nouveau de la présence de deux semences. Et on revient à ce qu'on a dit au début, l'hybridisme hybridé. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas cette chose-là. Il ne la veut pas. Encore aujourd'hui. Nous le lisons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ parle à nouveau de la présence de deux semences, et nous le lisons dans Matthieu chapitre 16, 36 à 43. Ici, apparemment, c'est pas le 16, c'est Matthieu 13. Matthieu 13, une erreur en français. Matthieu 13, 36 à 43, où lui-même se désigne comme le semeur de la bonne semence, car il est le fils de l'homme. La bonne semence sont les fils du royaume, et l'ennemi est le diable. Et les siens sont désignés par le Seigneur comme étant les fils du malin. Vous voyez? Par conséquent, ces deux lignées ne se trouvent pas seulement dans l'Ancien Testament, mais elles subsistent aussi dans le Nouveau. Et c'est pour cette raison que le Seigneur pouvait dire aux scribes, vous avez pour père le diable. Ça, c'est dans Jean 8, 44. Nous voyons aussi pourquoi Jean-Baptiste ainsi que le Seigneur Jésus attaquaient si sévèrement les pharisiens et les sadducéens. Même l'Élie, hein, de Malachie 4, 5 aussi. On peut comprendre ça. Attaquaient si sévèrement les pharisiens et les sadducéens, les traitant de serpents, de race, de vipères, est écrit dans Matthieu 3, 7 et 23, 33. Oui, à cette occasion également, il nous est montré ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Sinon, ces expressions ne se justifieraient guère. C'est vrai. Donc cette chose, c'est une chose qui est réelle, qui est arrivée. Et aussi dans 1 Pierre, on peut le lire aussi. 1 Pierre 1:9. À travers l'action surnaturelle de Dieu, il y a un processus inverse pour nous faire revenir au commencement. Ça, c'est moi qui ai écrit mes propres pensées. Donc, à travers l'action surnaturelle de Dieu, cette Vierge qui a enfanté, c'est comme s'il y avait un changement, un processus inverse qui s'est passé pour revenir à l'original. C'est pour ça dans Isaïe chapitre 1, il est écrit: venez, plaidons, discutons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la laine ou comme la neige. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la parole doit être prononcée. Voilà pourquoi les péchés ont été entièrement effacés. Oh, gloire, louange au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Sauveur, qui a eu cette miséricorde envers le monde. Vous voyez? Il a fait grâce. Voilà pourquoi les péchés ont été effacés. Et si un Fils de Dieu est né de nouveau, a été baptisé par l'Esprit Saint, et s'il a été pardonné une fois pour toutes, il n'y a plus rien qui peut lui être imputé. Et au contraire, c'est la foi à justice qui va lui être imputée. Parce que là, il va par la foi qu'il croit et qu'il a cru. Et que ses péchés ont été effacés, pardonnés. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Voilà la nouvelle vie qui vient. Voilà l'amour de Dieu qui s'avance vers nous. Et l'amour de Dieu est en nous et elle s'avance vers la parole, vers la foi, pour continuer, etc., etc. Moi, j'avais noté des choses. Donc ici, à travers l'action surnaturelle de Dieu, il y a un processus inverse qui se fait pour revenir à nouveau à Dieu. Voilà, Dieu me l'avait mis à cœur, mais je l'ai noté ici. Mais c'est comme ça. Lisons à Pierre 3. Ici, il y a quelque chose d'important à lire. Ça nous fait voir comment l'Église a un rapport avec l'Église, et l'Église a un rapport avec la femme. Et c'est une structure fragile. Quand elle le comprendra, femme, Église, épouse, alors là, des grandes bénédictions viendront. Donc ici, 1 Pierre 3, donc ici on est au verset 7. Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle, selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il y avait un pardon, parce que c'était un vase faible, parce que Adam ne pouvait pas être séduit. Jamais, jamais de la vie, Ève étant un vase faible, et comme l'homme a vu que c'est un vase faible, et qu'il a eu cette structure pour la fortifier, pour mettre les choses en place. Ainsi, le Seigneur aussi a fait la même chose avec Ève et avec toutes les autres. Avec tous les autres. Il y a toujours un parallèle. C'est toujours un parallèle. Vous y croyez? Je crois que oui. Amen. C'est toujours exactement la même chose. Donc, comment c'est écrit chez vous? Demeurez avec elle. Demeure avec elle selon la connaissance, comme avec un vase faible, plus faible. Tant que la femme, Église, ne réalise sa faiblesse et qu'elle a besoin de son Seigneur, ou charnellement de son mari, et spirituellement de son mari, si déjà aujourd'hui on voit ce qui se passe, mes amis, avec cette égalité, comme il dit, c'est cette parité. Ah là là. Mais moi, je parle des croyants maintenant. Je parle à des familles croyantes. Je parle à l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi on parle, on s'est adressé à elle, à l'épouse. Que Dieu vraiment nous aide. Afin que nous puissions prendre la forme juste dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Et on continue, on va de l'avant. Donc je reprends la lecture du frère Franck ici. Donc nous reconnaissons ces deux lignées jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Apocalypse 17, 1 à 6 nous montre l'église du monde désignée par le terme de grande prostituée, alors qu'Apocalypse 19, 6 à 10 nous présente l'épouse de l'agneau. Donc je reprends un peu au-dessus. Nous voyons aussi pourquoi Jean-Baptiste ainsi que le Seigneur Jésus attaquaient si sévèrement les pharisiens et les sadducéens, les traitant de serpents, de race de vipères. Matthieu 7, 3, 7, 23, 33. Oui, à cette occasion également, il nous a montré ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, sinon ces expressions ne se justifieraient pas. Que celui qui a des oreilles attende, nous reconnaissons ces deux lignées jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Apocalypse 17, 1 à 6 nous montre l'église du monde, désignée par le terme de grande prostituée. Alors qu'Apocalypse 19, 6 à 10 nous présente l'épouse de l'agneau. Que chacun, voilà les deux semences jusqu'à la fin, que chacun s'éprouve soi-même pour qu'il sache à quel groupe il appartient, car les deux lignées existent encore parmi le peuple de Dieu. Donc je note ici, et la fin du paragraphe, les uns haïssent, les autres sont haïs, les uns persécutent, les autres sont persécutés, les uns calomnient, les autres sont calomniés. Jean l'exprime par ses portes, par ses paroles. Jean l'exprime par ses paroles. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 15. Voilà la fin de l'extrait de la lettre. Que nous puissions vivre vraiment la vie de Christ à l'intérieur, à l'intérieur. C'est important. Est-ce que vous avez été béni? Je vous pose la question. Vous pouvez ouvrir vos micros. Amen. J'espère qu'il n'y a pas eu de lutte intérieure. Samuel? Parce que vous savez que c'est difficile d'entrer dans ce sujet sans rentrer dans des choses particulières et profondes pour comprendre le plan de Dieu. Sinon, on reste toujours dans la superficie. C'est comme si on lisait n'importe quel livre. Mais en fait, Dieu se révèle petit à petit. Dieu nous fait grâce et nous aide. C'est ce dont nous avons besoin. Nous tous, nous tous. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment nous fortifie jusqu'à la prochaine réunion. Je ne sais pas pourquoi les Français ne sont pas là, peut-être. Ils n'ont pas. Je ne sais pas. Mais demain, Jérémy m'a demandé si on peut aller sur Zoom pour rester un peu avec lui. Mais on va voir. Donc on va. On va voir, il y a aussi d'autres frères, Stéphane. On va voir comment nous allons nous voir. C'est ça, Dieu te bénisse, tu es là. Bonjour. Vous voyez comment on a tous besoin les uns des autres. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons nous arranger pour faire d'autres réunions avec Zoom. Amen. Que le Seigneur soit remercié. J'ai écrit un petit mot, comme on peut le voir, avec la visitation de l'ange à Abraham, qui a donné une promesse qu'il serait né un fils. Alors il y avait aussi la promesse avec la parole créatrice prononcée, et c'est exactement comme il a dit dans Genèse 28. C'est comme ça. Dieu me le fait voir ce soir, pendant que je lisais hier soir, j'ai vu, ou ce soir, pendant que je... C'était déjà en moi, mais l'expression devait être écrite comme ça, je l'ai écrit comme ça. Et ça, c'est vrai. Vous y croyez? Vous l'acceptez? Amen. C'est la vérité. C'est la vérité, ça. La parole créatrice, même le frère Branham le disait. La création, même la création, ne devait pas venir à travers le sexe. Elle devait venir à travers la parole prononcée. Voilà comment ça s'est fait. Voilà comment ça s'est fait. Que Dieu soit loué et remercié. C'est vrai, je le remercie pour cela. Nous tous. Alléluia. Nous allons prendre un moment de prière. Donc demain, il n'y a pas de travail, c'est le 25. Antonio, Samuel, doit travailler, lui. Voilà, je crois qu'il est... Voilà. Qui veut remercier le Seigneur pour donner gloire à Dieu, le remercier pour ces moments, pour cette bénédiction que le Seigneur nous accorde. Frère Carmelo va prier. Amen Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour ta révélation, pour chaque chose que tu nous donnes, parce que c'est vraiment quelque chose de précieux et de glorieux. Et notre foi, Seigneur, se fonde sur ta parole. Et nous reconnaissons que tu t'es prise une parole, une épouse sainte, parfaite, sans rides, et nous voulons l'être, en faire partie. Et nous te prions de nous aider, afin que ta parole soit révélée continuellement dans nos vies, et que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique, comme on l'a dit au commencement, la foi sans les œuvres, et les œuvres sans la foi ne sont rien. Nous voulons voir tout pleinement, et ce sont tes promesses. Nous avons basé notre vie sur ces promesses et nous avons expérimenté que dans ce monde, il y a l'intelligence, la sagesse humaine, il y a toutes choses, mais qui manquent. Mais toi, tu es celui qui a un plan pour cette humanité et tu nous as inclus dans ce plan et tu nous fais participants de ce plan divin. Seigneur, nous attendons que tu reviennes. Seigneur, nous te remercions, même pour ce soir, pour la manière dont tu nous expliques la parole et tu nous la fais comprendre. Et que nous puissions nous consacrer à toi. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous ne sommes pas tachés, entachés de toute cette corruption qu'il y a dans le monde. Alors que le monde périt et qui est dans le malin. Mais nous demeurons dans ta parole. Et nous reconnaissons que quand nous avons besoin de toi, nous pouvons nous tourner vers toi. Et ton esprit nous révèle ta parole. Et tu nous révèles ta parole afin que nous puissions toujours corriger notre chemin. Aide-nous, chacun d'entre nous, donne-nous ton amour, l'amour que tu as donné à ton épouse, qu'il puisse être dans nos cœurs. Que nous puissions chercher l'union parfaite. Seigneur, continue à œuvrer dans nos vies et écoute nos prières, nos besoins. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et ce que nous te demandons, c'est de nous aider. Avant tout, que nous puissions voir, regarder à l'intérieur de nous-mêmes, afin que nous puissions mettre tout entre tes mains. Et que ta volonté se fasse dans nos vies. nous voyons que dans cette perfection, nous pouvons être un avec toi. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci pour ta parole. Merci pour ces perles précieuses que tu nous donnes. Merci pour ce trésor caché que tu continues à nous donner. C'est une fontaine d'eau vive qui nous fait nous rendre bien et qui nous restaure et qui nous fait désirer toujours plus de te connaître. Nous sommes à tes pieds. Merci pour toutes choses. Accorde-nous ta bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut prier? Quelqu'un d'autre veut prier? Sinon, nous saluons. Alléluia. Francesco. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que nous nous sentons vraiment sur le mont de béatitude. Nous avons la joie dans le cœur de t'appartenir et d'être avec toi, Père. Tu nous empêches de faire des choses qui vont au-delà de ta parole parce que tu es l'omnipotent qui garde tes enfants et qui nous soutient et qui, dans chaque œuvre. Seigneur, fais-nous grâce encore pour mieux comprendre. Parce que quand ta parole vient, c'est comme une épée à deux tranchants qui sépare et qui nettoie nos cœurs. Continue ton œuvre et glorifie ton nom. Merci Seigneur. Merci pour les frères. Merci pour cette communion, Père Céleste. C'est quelque chose de profond et que seuls les tiens peuvent comprendre. Fais de nous tes enfants. À toi va toute la gloire, Père Céleste. Merci pour la nourriture que tu nous donnes pour nous apporter à cette stature de l'homme parfait. Parce que toi, tu as un plan avec l'humanité. Tu as prédestiné quelque chose. Et nous tous, nous voulons y arriver. Nous voulons être là pour être pris un jour, pour être toujours avec toi. Merci Père, à toi va toute la gloire. De tout mon cœur, de toute notre âme, et d'un commun accord, nous voulons prier les uns pour les autres, pour glorifier ton nom, pour une vraie communion de l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Merci. À toi va toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Amen. Alléluia.